De la paix. Il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Didier Blé.
Vendredi 16 février 2024, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Préservation des infrastructures sportives. Mardi au palais présidentiel, lors de la réception en l'honneur aux éléphants champions d'Afrique, le président de la Fédération ivoirienne de football a fait 3 propositions. Ces propositions étaient au menu du Conseil des ministres de ce mercredi. Nous en parlerons dans cette édition. L'université Jean-Laurumion-Guédé de Daloa organise un colloque. Ce colloque se referme donc ce vendredi autour du thème formation universitaire et recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Quel positionnement de l'université Jean-Laurumion-Guédé? Vous aurez dans cette édition le compte-rendu de Jean-Noël Kwami. Actualité sur le continent. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel annule le report de la présidentielle, décision rendue publique hier jeudi. Vous aurez la revue des titres présentée par Mel Emmanuel et puis en toute fin de journal, chef d'entreprise multidisciplinaire, Kalilou Koulibaly est aujourd'hui notre invité de la rédaction. Il répondra aux questions de Junior Cardin au sujet de questions liées à la liberté d'expression. Voilà pour le sommaire. Merci de nous retrouver. Bienvenue à tous. Préservation des infrastructures de la CAN 2023. Au cours de la cérémonie d'hommage aux éléphants, Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, a fait 3 propositions au chef de l'État sur la gestion et la préservation de nombreuses infrastructures, telles que les stades, les terrains d'entraînement, les cités CAN. Ces propositions étaient au menu du Conseil des ministres de ce mercredi, au cours duquel le président de la République a demandé au Premier ministre Robert Begré-Mambé de prendre les mesures utile pour assurer la bonne gestion des infrastructures en examinant les 3 propositions du président de la FIF. On écoute le président Alassane Ouattara.
Dans le but de consolider les acquis de cette CAN, je demande à Monsieur le Premier ministre de faire en sorte que l'entretien, la maintenance et l'exploitation optimale des infrastructures de grande qualité dont nous disposons désormais soit une priorité immédiate. Le gouvernement devra également intégrer le renforcement de la formation de notre jeunesse dans différents domaines sportifs, dans les réflexions en cours sur l'utilisation de nos infrastructures. Je vous demande à Monsieur le Premier ministre d'examiner les 3 propositions faites par le président de la FIF afin que ces infrastructures soient préservées et servent notre jeunesse et le football ivoirien. Le président de la Fédération ivoirienne de football avait fait 3 propositions. La première concerne la création d'une entité spécialisée pour l'entretien et l'exploitation des infrastructures afin que l'héritage de la plus belle CAN que nous avons organisée soit préservé et serve le football ivoirien et pourquoi pas continental. Deuxièmement, que la transformation des cités CAN en pôles de développement sous-régional puisse être réalisée. Et troisièmement, la mise en place d'un fonds spécial pour le développement du football pour les jeunes. Ceci, bien sûr, est déjà en cours.
Voilà, vous écoutiez à l'instant le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président de la République, lors de son adresse à la Nation le 31 décembre 2022, a décrété l'année 2023 année de la jeunesse. Ainsi, le gouvernement a mis en place le programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025 d'un coût estimatif de 1118 milliards de francs CFA avec 3 axes majeurs, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse et de l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes, naturellement. Alors, au terme du Conseil des ministres du mercredi 14 février, le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, a fait le point partiel du PJGouv 2023-2025. On l'écoute.
Au 31 décembre 2023, les initiatives entreprises dans le cadre du PJGouv ont permis d'impacter directement 1,1 million de jeunes, de sensibiliser 8,2 millions de jeunes contre les fléaux sociaux et de construire ou réhabiliter 112 structures de formation et d'infrastructures de jeunesse. L'ensemble de ces réalisations a nécessité un investissement de 535,8 milliards de francs CFA, dont 360,5 milliards de francs CFA pour les constructions ou réhabilitations d'infrastructures, 173 milliards de francs CFA pour les initiatives d'accompagnement direct des jeunes vers l'emploi et l'autonomie et 2,4 milliards de francs CFA pour les actions de sensibilisation à l'endroit des jeunes.
Le ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement. Agriculture dans cette édition, les fêtières et syndicats de la filière cacao viennent d'adresser une missive à leur ministère de tutelle, le ministère de l'Agriculture. Objectif, exprimer leurs préoccupations consécutives à l'embellie du prix du kilogramme de cacao constaté sur le marché international. Là-dessus, écoutons Koné Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire.
Ce courrier est quand même lié à la situation de prix actuel du cacao. Mais aujourd'hui, on constate que le prix est monté sur le marché mondial. Malheureusement, le constat est que le producteur reçoit toujours que 1 000 francs. Pendant qu'on parle de 5 000 francs à l'international, mais l'État nous donne 1 000 francs.
Comparé à quelques pays africains, comparé au Ghana et au Cameroun.
Ghana
et au Cameroun, qu'est-ce qu'il y a ?
Aujourd'hui, qu'on parle officiellement de 1 200 et quelques, je parle de Cameroun qui a 2 000 et quelques, la Guinée qui n'a même pas au 1 pour le pays producteur officiel aujourd'hui qui est 2200 francs, on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'État puisse quand même nous donner que 1000 francs pendant que les autres pays sont en train de s'enrichir.
C'est la question que vous avez posée au ministre à travers votre courrier.
Oui, ben on a demandé, mais on allait plus loin puisqu'on a demandé une relecture quand même de texte de cette prix garanti qui n'a jamais été garanti même d'ailleurs. Les gestionnaires n'ont pas de plantation. L'État lui-même n'a pas de plantation. Mais c'est l'État qui fixe le prix de cacao comme si les plantations sont étatiques. Les plantations ne sont pas étatiques.
Est-ce que vous, les producteurs, vous n'êtes pas consulté avant la fixation des prix?
Pas du tout. Nous, on est associé à rien du tout.
Koné Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire. Je rappelle donc qu'il était interrogé par Constant Maïli. Saine utilisation des réseaux sociaux, le Réprelsi, réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, sensibilise les jeunes. La première séance a eu lieu dans plusieurs villes du pays du 9 février et prend fin donc le jeudi 15 février. Et sur la motivation de cette initiative, écoutons Sui Kaofi, journaliste à l'agence France-Presse, formateur Réprelsi sur ce projet.
Cette initiative répond à un seul objectif. Il s'agit pour nous d'informer la jeunesse ivoirienne sur la saine utilisation des réseaux sociaux et de leur donner plus d'informations sur ce qui est possible pour eux de dire ou de ne pas dire sur les réseaux sociaux. Alors quand nous parlons de saine utilisation des réseaux sociaux, il va sans dire que dans ce paquet nous mettons la loi sur la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, les discours de haine et bien entendu les fausses informations. Nous les sensibilisons donc à avoir recours à des plateformes qui sont crédibles pour pouvoir s'informer, mais également éviter certains propos qui sont par exemple de nature injurieuse sur les réseaux sociaux afin que ces propos qu'ils tiennent aujourd'hui dans leur jeunesse ne puissent pas les rattraper demain. Parce que ce qui se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux reste et peut servir demain contre eux lorsqu'ils vont vouloir chercher un emploi.
Cette initiative, c'est pour les orienter ou parce que des remarques ont été faites, des débordements sont constatés dans l'utilisation donc de ces réseaux sociaux par ces jeunes?
C'est qu'on a remarqué que beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens avaient cette coutume là de partager des photos d'eux sur les réseaux sociaux, soit certaines vidéos osées. Les jeunes s'adonnent à des insultes. Il était important d'aller vers ces jeunes-là pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas se retrouver sur le coup de la loi. Parce que une fois au bureau du procureur, l'expression « je suis jeune » ou « je ne savais pas » n'a plus cours, étant donné qu'il y a des peines privatives de liberté et des amendes pécuniaires qui sont liées à tous les délits en ligne.
Je suis Kaofi, journaliste à l'agence France Presse, formateur et précis sur le projet. Il était avec Junior Cardin. Et puis rendons-nous à Daloa à présent, où l'université Jean-Laurent Guédène de Daloa organise du 14 au 16 février 2024 un colloque universitaire sur le thème « Formation universitaire et recherche scientifique en Côte d'Ivoire, quel positionnement de l'université Jean-Laurent Guédène ?» Ces assises visent à faire un état des lieux et proposer des solutions face à l'inadéquation entre les formations et les opportunités d'emploi des diplômés. Jean-Noël Kouamé.
Ce colloque universitaire vise à mettre en adéquation les formations et l'insertion des diplômés tout en contribuant au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Professeur Adoï Brou Viviane, présidente de l'université Jean-Laurent Guédène de Daloa.
Malgré les différents prix glanés par les acteurs de UJLOC, le taux d'insertion des diplômés reste encore faible. stagnant autour de 10%. Le présent colloque a pour objectif de proposer une stratégie de formation pour participer efficacement au développement socio-économique durable et permettre à nos étudiants d'être en adéquation avec le monde de l'emploi.
Le professeur Kone Tidiani, directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a insisté sur la nécessité d'adapter la formation et la recherche au développement de la Côte d'Ivoire.
Des pans de notre mission portent sur la formation de personnes ressources de qualité. La recherche doit s'attaquer aux problèmes de développement socio-économique. Il faut que nos travaux de recherche aient un lien avec les secteurs productifs de notre pays.
Ce colloque qui prend fin ce 16 février permettra de faire un état des lieux de la recherche et de l'innovation à l'université Jean-Laurion Guédé et proposer une base de formation axée sur les priorités de l'État et en adéquation avec les besoins d'insertion socio-professionnelle des diplômés. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Actualité sur le continent, au Sénégal, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi qui reporte la présidentielle au 15 décembre 2024 contraire à la Constitution et annule le décret du président Macky Sall qui annulait l'élection du 25 février. C'est une décision historique tant le report de la présidentielle est à l'origine d'une crise politique majeure et inédite au Sénégal. Rappelons que ce jeudi, le Conseil constitutionnel a tranché et a jugé contraire à la Constitution la loi qui reporte la présidentielle au 15 décembre. Dans cette même décision, il a annulé le décret du président Macky Sall qui annulait la convocation du corps électoral pour le 25 février. Le Conseil des sages fonde sa décision sur un principe de sécurité juridique, l'article 103, qui indique que personne ne peut réformer le nombre et la durée du mandat du président. Et puis le Conseil exécutif de l'Union africaine constitué des ministres des Affaires étrangères a entamé mercredi à Addis Abeba en Éthiopie les travaux de sa 44e session ordinaire en prélude au 37e sommet de l'Union le 17 et 18 février. À la cérémonie d'ouverture des travaux, Doyi Ndoul Kamar, le ministre des Affaires étrangères des Comores, président en exercice du Conseil exécutif de l'Union africaine, a prononcé son discours d'orientation des travaux et Junior Cardin revient sur l'essentiel du contenu de cette allocution.
Pour son allocution de lancement des travaux, Doyir Doul Kamal, ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores et président en exercice du Conseil exécutif de l'Union africaine, a déploré, et je cite, une épidémie de changements anticonstitutionnels qui a secoué le continent ces deux dernières années, mettant à rude épreuve les progrès en matière de démocratie observés jusqu'ici en Afrique. Fin de citation. Il a ajouté à cette équation le fait que la CEDEAO soit aujourd'hui confrontée au retrait de trois de ses États membres, fragilisant ainsi le processus d'intégration économique du continent. Faisant allusion au Mali, au Niger et au Burkina Faso, où, selon ses propos, les transitions politiques semblent s'enliser. Doyir Doul Kamal exhorte la CEDEAO à entamer des discussions franches avec ses trois États membres pour sortir rapidement et par le haut de cette situation dommageable aux deux parties. Malgré ce tableau peu reluisant de la situation générale de l'Afrique, le président en exercice du Conseil exécutif a exprimé sa fierté des progrès substantiels réalisés en 2023, notamment la défense des intérêts supérieurs de l'Afrique à la COP28, les avancées positives enregistrées dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre de la ZILECAF. La présente session est appelée à se pencher sur les questions majeures, entre autres la note conceptuelle et la feuille de route du thème de l'année 2024 portant sur l'éducation, la participation de l'Union africaine au G20, le projet de cadre stratégique et le projet de cadre d'orientation pour les partenaires. Pour finir, Doyir Doul Kamal a invité ses pairs à examiner ces différents points dans un esprit positif pour parvenir à des délibérations tangibles. Notons que le 37e sommet de l'Union africaine se tient les 17 et 18 février à Addis Abeba en Éthiopie et la Côte d'Ivoire y sera représentée par le vice-président Tiémoko Meïlé Koné.
Merci à vous, Junior. Je rappelle que vous reviendrez tout à l'heure pour la dernière étape de notre journal, donc l'invité de la rédaction. Mais en attendant, nous retrouvons cette fois Mel Emmanuel pour la revue des titres. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Didier et bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio de la Paix. Cinq jours après le succès des éléphants à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la plupart des unes de nos journaux de ce vendredi 16 février 2024 traitent des remerciements du Premier ministre Robert Begré-Mambé aux guides religieux pour leur contribution à ce sacre éléphantesque. Ainsi, on peut lire sur la couverture du journal Le Rassemblement, succès de la CAN 2023, Mambé dit merci aux guides religieux. Le ton est identique sur le mandat qui affiche « Visite de remerciement du Premier ministre aux guides religieux. Comment les jeûnes et prières ont accompagné les éléphants ?» Se faisant l'écho du même mouvement de remerciement du Premier ministre aux religieux, l'Avenir barre à sa une. Après la descente aux enfers et la résurrection des éléphants à la Cannes 2023, Beugré Mambé et les guides religieux rendent gloire à Dieu. En marge de la visite de remerciement du Premier ministre aux guides religieux, les artisans du sacre de la Côte d'Ivoire à la Cannes 2023, les éléphants, ont été reçus par les députés, comme on peut le voir sur Soir Info. Après le sacre des éléphants à la Cannes, les joueurs célébrés par les députés hier. Information reprise par l'expression en ces termes, les éléphants reçus par Big Togo et les députés. Enfin, nous terminons cette revue des titres avec la situation sociopolitique au Sénégal. En rapport avec la décision de report de l'élection présidentielle par le président Macky Sall, le périodique Le Bélier écrit « Sénégal, le Conseil constitutionnel annule le décret reportant la présidentielle du 25 février 2024. » Ce que dernière heure renchérit, « Sénégal, le Conseil constitutionnel annule le report de la présidentielle. » Merci à tous et à vos bacs à journaux.
Merci à vous Emmanuel, on vous retrouve dans le journal de 8h. Tout de suite l'invité de la rédaction pour refermer cette édition. Notre invité est chef d'entreprise multidisciplinaire, il s'intéresse aux questions liées à la liberté d'expression. Khalilou Koulibaly revient sur la problématique de la restriction de la liberté d'expression au motif de l'impératif sécuritaire. Il répond aux questions de Junior Cardin.
Monsieur Khalilou Koulibaly, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre contribution chez un confrère sur la liberté d'expression nous a rappelé l'actualité récente au Sénégal où l'Internet avait été coupé. Khalilou Koulibaly, est-ce qu'on peut restreindre ou on doit restreindre la liberté d'expression au motif de l'impératif sécuritaire comme cela avait été dit?
Ben écoutez, vous posez deux questions en une. Déjà, vous dites, est-ce qu'on peut ou on doit? C'est deux impératifs qui interpellent, qui ramènent donc forcément à des contextes d'analyse. Oui, parce que la liberté d'expression elle-même, c'est une liberté de pensée et une liberté d'opinion, mais qui s'exerce dans les limites des règles, puisqu'on est dans, on vit dans une société et la société est organisée. Alors, la sécurité étant le dispositif qui empêche de manœuvrer intempestivement un appareil, je pense bien que ça rentre dans ce cadre-là, pour éviter justement que cette information qui peut être virale et donc considérée comme une arme à feu n'impacte immédiatement ou systématiquement la vie de peut-être de 5 millions de populations. Vous voyez, donc le danger est plus grave que de prendre une arme à feu pour tirer sur l'individu. Voilà, je pense que c'est dans ce cadre-là que le pouvoir au Sénégal a vu agir pour justement contenir toutes les informations qui peuvent suivre de toutes parts.
Et donc, si on part sur cette base, Khalilou Koulibaly, à quel moment l'impératif sécuritaire doit prendre le dessus sur la liberté d'expression?
Écoutez, quand la sécurité nationale est menacée, parce qu'il s'agit, on est dans un contexte électoral où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de velléités depuis un moment maintenant, avec le fait que des opposants soient écartés de la course, les esprits sont surchauffés. Et donc, on a vu un appel à un soulèvement à un moment donné. Donc, je pense que la décision que le pouvoir sénégalais prend pour reporter les élections regorge de beaucoup d'enjeux. Alors, pour moi, pour continuer justement toutes les vérités bonnes ou mauvaises qui peuvent subvenir, l'État prend ses dispositions dans un cadre anticipatif pour éviter que ça ne déborde et de contrôler la communication. La bonne communication et la mauvaise communication.
Vous dites bien bonne communication, mauvaise communication.
Absolument, oui. On peut en citer plusieurs. La bonne communication, c'est tout ce qui va sensibiliser sur la morale, l'éthique, etc., le respect des règles, le bon fonctionnement de la société. La mauvaise communication, c'est toutes celles qui vont aller contre justement le bon fonctionnement de la société. On a vu aux États-Unis, avec les critères seulement, bon, parce qu'il y a un soulèvement dans un État considéré démocratique. Vous voyez, donc il y a la bonne communication, la mauvaise communication. Mais et la loi, la sécurité, justement, doit empêcher de manœuvrer intensivement justement les consciences populaires.
Mais dans beaucoup de cas, l'impératif sécuritaire sert d'alibi pour restreindre la liberté d'expression. On voit ça un peu partout, en Afrique et ailleurs.
Ben écoutez, la restriction, non, je ne dirais pas que c'est la restriction. Parce qu'on n'est pas dans un... Je veux dire, ce n'est pas le libertinage non plus la communication. On n'est pas ce qu'on fait dans une société organisée. Vous voyez, on a nous-mêmes nos propres valeurs, nos propres cultures, justement, qui prennent sur tout ça. Alors, on ne peut pas transposer de telles situations sans filtre. pour amener ça dans les sociétés où on est beaucoup attaché à la morale et au civisme. Donc l'Afrique n'est pas un cas isolé, hein. L'Africain, on fonctionne avec le droit modèle et en même temps avec justement le contexte traditionnel et culturel. Tout ça, on doit prendre en compte. Donc on ne peut pas laisser tout se transposer chez nous sans passer par des filtres. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de fonctionner quand on veut être un État indépendant et souverain à fonctionner avec ses propres cultures et ses traditions.
Dans votre contribution chez le confrère Le Patriote de ce matin, vous avez eu à énumérer quelques restrictions au principe de la liberté d'expression. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces restrictions?
Oui, par exemple, ne pas porter atteinte à la vie privée ou aux droits de l'image d'autrui. C'est ce qu'on fait effectivement aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ne pas tenir certains propos interdits par la loi, tels que l'incitation à la haine, par exemple. Et ça, on assiste tous les jours à cela sur les réseaux sociaux, comme tenir l'image d'un régime, tenir des propos discriminatoires, inciter à l'usage des produits stupéfiants, des choses comme ça. Ou bien ne pas tenir des propos diffamatoires, hein. Aujourd'hui, chacun s'élève, fait une vidéo, va tenir des propos sans preuve pour accuser quiconque, n'importe qui, n'importe comment. Voilà les points essentiels sur lesquels je suis intervenu. Voilà, pour éclairer la lanterne des gens, pour dire, bah, écoutez, nos ambassades qui se trouvent dans d'autres espaces, pour que justement ça puisse interpeller la conscience sur ce genre de choses-là. Voilà, on ne peut pas laisser tout se faire non plus au nom de la liberté d'expression.
Khalil Koulibaly, merci beaucoup.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Notre invité était donc Khalil Koulibaly. Il était répondant aux questions de Junior Cardin sur les questions liées à la liberté d'expression. Cet entretien referme ce 7h, le rappel des titres. Préservation des infrastructures sportives, mardi au palais présidentiel, le président de la FIFA a fait 3 propositions et ces propositions étaient au menu du Conseil des ministres de ce mercredi. Vous avez entendu dans cette édition le chef de l'État Alassane Ouattara. L'université Jean-Laurignon-Guédé d'Aloire referme un colloque universitaire sur le thème formation universitaire et recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Quel positionnement de l'université Jean-Laurignon-Guédé? Ce colloque s'est ouvert mercredi et se referme aujourd'hui. Et puis on l'a dit, actualité sur le continent, au Sénégal, le Conseil constitutionnel annule le report de la présidentielle, décision rendue publique hier jeudi. On est à 8h pour la 2e édition de la matinée. D'ici là, retrouvez Christelle Yesso pour la suite des Matins de la Paix.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.